Rediffusion.
Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
La partenza per l'Africa orientale italiana del nucleo di rurali per il primo esperimento di colonizzazione della zona del Cercer.
Bonjour à tous. Quand les pays européens retrouvent la mémoire de leur passé colonial, vaste quête et douloureuse introspection aussi. En Italie, la colonisation de l'Érythrée, de l'Éthiopie, de la Somalie et de la Libye reste encore très méconnue dans le pays. La violence et la brutalité de cette mise sous tutelle, notamment durant la période fasciste, sont souvent passées sous silence. L'écrivaine italienne d'origine somalienne, Hijaba Shego, ne cesse d'interroger cette amnésie nationale. Son histoire personnelle l'y pousse avec urgence. Olivier Bonnel est aller la rencontrer chez elle à Rome.
Buonasera.
C'est à la bibliothèque du quartier romain de Pigneto qu'Hijaba Shego nous reçoit. C'est dans ce quartier populaire que vit cet auteur d'origine somalienne, né il y a 45 ans dans la capitale italienne. Figure d'une nouvelle génération d'écrivains attentifs au passé douloureux de l'Italie, Hijaba Shego met dans ses livres et articles la mémoire coloniale de la péninsule qui résonne fortement avec son histoire familiale.
Mon grand-père était l'interprète d'un des plus hauts dignitaires du régime fasciste et l'un des plus cruels, Rodolfo Gradiani, l'homme qui a fait gazer des Éthiopiens, a envoyé des Libyens dans des camps de concentration en Cyrénaïque. Et à chaque fois que je me rappelle que mon grand-père a traduit les paroles du fascisme en Somalie, je me dis que c'est un sacré poids sur les épaules.
De cette histoire intime, Hijaba Shego en a fait un moteur pour mieux comprendre cette Italie qui aujourd'hui encore a du mal à regarder ce passé. Dans ses ouvrages, elle revient sur cette amnésie et sur un devoir de mémoire qui reste à faire.
En Italie, on commence tout juste à évoquer le colonialisme, mais pendant de longues années, on a ignoré ces colonies, que des violences y ont été commises. L'une des premières conséquences de l'unité italienne fut le colonialisme avec la prise de l'Érythrée, avec les deux défaites de Dogali puis d'Adwa en Éthiopie et l'invasion violente de la Libye en 1911. Et 1911 fut un colonialisme violent qui a préparé à ce qu'a fait ensuite Mussolini.
À Rome, comme dans les autres grandes villes italiennes, les traces de ce passé sont nombreuses. Statues, noms de rues ou de places qui rappellent les années 20 ou 30. Pour Hijaba, ces traces sont une mémoire vive qui doit rester mais qui a besoin d'être décryptée.
Je n'ai pas envie que l'on efface ces traces, que l'on abatte ces monuments. Le problème, c'est qu'on ne les comprend pas. En Italie, il y a déjà eu un débat de la sorte dans les années 60 au moment des Jeux Olympiques à Rome. L'écrivain Gianni Rodari décrivait les gens qui venaient au Foro Italico et voyaient des mosaïques fascistes et coloniales. Il a raconté « Laissons ces traces, mais au moins remettons-les dans leur contexte, donnons des explications. » Le problème que Gianni Rodari exposait dans les années 60 n'a jamais été abordé sérieusement. Et cela devrait être fait aujourd'hui. On devrait permettre à ceux qui vont visiter ces lieux de les comprendre, de voir quelle violence ils portent en eux.
Mais si cette mémoire coloniale italienne est encore enfouie, Hijaba Shego se veut résolument optimiste. Depuis quelques années, une nouvelle génération d'historiens et d'écrivains aborde cette face sombre de l'histoire et commence à la transmettre grâce à de nombreux outils pédagogiques, des livres bien sûr, mais aussi des pièces de théâtre ou des contes pour enfants.
Ces dernières années, j'ai vu changer le regard des enseignants en particulier, et ça c'est très positif. Le travail a commencé par les historiens, puis des chercheurs, hommes et femmes, qui font que peu à peu le voile se lève sur cette histoire coloniale cachée. Ces spécialistes passent de plus en plus la porte des écoles.
Hijaba est invité dans toute la péninsule pour partager ses livres qui racontent cette Afrique un temps italienne, pour rester vigilante aussi sur la transmission de cette mémoire.
Et aux Pays-Bas, c'est l'Amsterdam Museum qui s'est saisi de ce débat avec une initiative qui fait polémique. Le musée a décidé de ne plus utiliser le terme d'âge d'or, une appellation qui recouvre un XVIIe siècle riche mais aussi colonisateur. Bref, l'âge d'or n'était pas vécu comme tel par tout le monde, loin s'en faut. C'est le reportage d'Antoine Moutot.
À peine arrivé, une grande inscription donne tout de suite le ton. Portrait de groupe du XVIIe siècle, peut-on lire à l'entrée d'une grande salle de l'Ermitage Amsterdam, investie par l'Amsterdam Museum. Ici, plus question de parler d'apogée, d'âge d'or ou encore de siècle d'or néerlandais. Tous ces termes sont du passé. C'est en tout cas le souhait de Tom van der Molle, conservateur du musée d'Amsterdam.
Amsterdam est une ville dont plus de la moitié des habitants est issue de l'immigration. Pour eux, le terme « siècle d'or » est un terme à consonance nationaliste. Et si vos ancêtres ont été faits esclaves au XVIIe siècle, justement par les Néerlandais, présents sur les grands tableaux derrière nous, eh bien, ça fait mal. Car pour vos ancêtres, ce siècle-là n'était pas du tout fait d'or.
Sur les murs de magnifiques tableaux du XVIIe siècle, la grande majorité représentant des groupes de Néerlandais, souvent de riches Amstelodamois de l'époque. Groupe d'hommes influents sur une œuvre, groupe de femmes sur une autre, avec souvent des pièces de monnaie au milieu de la scène. Tout ici suggère l'opulence de l'époque. Mais explique Tom van der Molle, l'expression « âge d'or » n'a en fait rien à voir avec cette période de l'histoire.
Le siècle d'or, pour désigner le XVIIe siècle, est en fait une invention du XIXe siècle. Dans l'ouest de l'Europe, il est connu que de très nombreux pays ont développé à l'époque une sorte d'histoire nationaliste de la patrie. Au XVIIe siècle, les gens étaient eux-mêmes conscients qu'ils vivaient une période particulière. Les peintres de l'époque le savaient, ne serait-ce que parce qu'ils pouvaient peindre beaucoup. Pour les personnes représentées sur les tableaux, c'était aussi l'âge d'or. Mais pour la plupart des personnes de l'époque, ce n'était pas du tout le cas.
Et surprise, entre les peintures du XVIIe siècle, on trouve ici quelques photographies d'aujourd'hui imitant le style de l'époque. Intitulée « Les grands maîtres néerlandais revisités », cette exposition veut donner un visage aux oubliés du siècle d'or.
Voici Francisca, Francisco et Esther, trois Amstelodamois noirs du début du XVIe siècle. Ils vivaient dans une pauvreté désespérée, dans une cave, dans la même rue où habitait Rembrandt.
Parmi les personnes photographiées et vêtues de costumes de l'époque, on trouve notamment une ancienne présentatrice de télévision d'origine surinamienne, c'est-à-dire de l'ancienne colonie Guyane néerlandaise, Sylvana Simons. Aujourd'hui fondatrice et chef d'un petit parti dit anti-discrimination, elle est notamment connue aux Pays-Bas pour avoir été la cible de nombreuses menaces et insultes. Ses détracteurs lui reprochent d'avoir pris position pour la suppression du personnage de Zwarte Piet, le serviteur de Saint-Nicolas. Maquillage noir, grosses lèvres rouges et perruque afro, c'est lui qui distribue chaque fin d'année les cadeaux aux enfants. Mais pour certains, son image grotesque est justement trop proche des clichés coloniaux. Comme lors du virulent débat encore en cours autour de Zwarte Piet, l'initiative du musée d'Amsterdam est loin de plaire à tout le monde. Elle suscite la colère d'une partie des Néerlandais et de la classe politique. À l'image du chef du parti nationaliste Forum pour la démocratie, Thierry Baudet, qui dans ce clip à destination de ses partisans, s'est juré de défendre bec et ongles le siècle d'or.
Nous n'osons plus défendre notre identité, notre propre pays. Et ça, parce qu'on nous a mis dans la tête une image déformée de notre passé. Nous avons honte, nous nous sentons coupables. Mais ce n'est pas juste. Les personnes qui ont construit les Pays-Bas ont souvent accompli des choses merveilleuses. Et nous devrions y puiser beaucoup d'inspiration et en être très fiers.
Avant l'Amsterdam Museum, d'autres musées du pays avaient déjà décidé de supprimer un certain type de vocabulaire utilisé dans les titres des œuvres, comme « nègre », »,« cafre » ou « amérindien ». Au Tropen Museum, le musée des tropiques d'Amsterdam, cela fait déjà plusieurs années que le vocabulaire est en pleine mutation. Cette direction a même fait publier à l'attention d'autres musées un guide des mots et expressions à bannir. Au Tropen Museum, on dit par exemple plus « esclave », mais « personnes qui ont été faites esclaves ». Le Rijksmuseum a lui aussi retiré de sa base de données des expressions comme « nègre » ou « esquimaux », mais pour l'instant, pour le musée qui abrite la célèbre ronde de nuit de Rembrandt, pas question de toucher à l'appellation « siècle d'or ».
Et en Serbie, c'est une toute autre histoire. À l'époque titiste, la Fédération yougoslave à la pointe du non-alignement a largement soutenu la lutte pour la décolonisation, finançant les mouvements d'indépendance en Algérie, en Guinée-Conakry, au Mali ou au Ghana. Ces États devenus libres ont ensuite été soutenus par Belgrade. Mais depuis l'éclatement de la Yougoslavie, les gouvernements nationalistes veulent effacer ce passé comme tout ce qui est lié à la Yougoslavie. Reportage à Belgrade, signé Simon Rico.
Installé dans le quartier chic de Senjak, sur une colline qui surplombe la capitale serbe, le musée africain de Belgrade accueille depuis 1977 la plus riche collection d'art et d'artisanat du continent noir de toute l'Europe de l'Est. À l'origine de ce projet, deux figures du régime socialiste yougoslave, Veda Zagorac et Zdravko Pečar, qui parcoururent l'Afrique dans le cadre de leur mission diplomatique en pleine année de lutte pour l'indépendance. Comme le rappelle l'ancien ambassadeur Danilo Milic, qui a lui aussi effectué toute sa carrière en Afrique, le soutien au mouvement de libération était l'une des priorités de la Yougoslavie de Tito.
Tout d'abord, nous avons aussi un passé colonial parce que la Turquie a occupé la Yougoslavie pendant 500 ans. Donc on a gardé toujours cette mentalité qui était héritée par les générations. Donc il y avait un réflexe de solidarité envers les pays colonisés. Et d'autre part aussi, il y avait une raison idéologique. Le Parti communiste yougoslave qui avait le pouvoir, n'est-ce pas, il avait une idée de la libération du monde opprimé et des pays qui étaient sous le joug colonial pendant tant de temps. Alors c'est ça qui a orienté notre politique d'une aide plus importante que l'autre pays socialiste qui faisait partie du bloc soviétique, qui à cause de cela ne voulait pas gêner le rapport entre deux blocs.
Jusqu'à son éclatement, peu après la chute du mur de Berlin, la Yougoslavie a joué un rôle prépondérant sur la scène internationale en se positionnant hors de l'affrontement des deux blocs à la tête du mouvement des non-alignés. Après avoir beaucoup aidé le FLN en Algérie contre la France, la Fédération socialiste s'est impliquée au Congo-Kinshasa aux côtés de Patrice Lumumba, au Mali, en Guinée-Conakry, au Ghana, ainsi que dans toutes les colonies portugaises. Une fois l'indépendance acquise, Tito a continué d'apporter un large soutien matériel et humain. Ce fut par exemple le cas dans la Guinée de Sékou Touré, après la rupture brutale avec Paris en 1958. 60 ans plus tard, Conakry n'a pas oublié cet effort, comme le rappelle Almami Kobele Keita, chargé d'affaires à Belgrade.
La Yougoslavie a fait plein de choses pour la Guinée. Il y a eu des Yougoslaves qui sont partis en Guinée, qui ne savaient même pas un mot français, mais qui ont appris le français à une Guinée et qui sont partis dans les villages reculés pour enseigner les Guinéens en français. Et en plus de cela, Energo Project, qui s'occupe du courant, a été l'une des premières sociétés à s'installer en Guinée. Ils ont mis tout le paquet pour nous donner le courant suffisamment. Et en plus de cela, la Yougoslavie a offert à l'époque, dans le cadre du transport, des bus, plein de bus, des médecins. Franchement, dans le cadre bilatéral, Tito avait un penchant pour la Guinée.
Mais toute cette histoire est aujourd'hui effacée par les gouvernements nationalistes qui se sont succédés à la tête de la Serbie. Caché sur la colline de Topčider, le musée africain de Belgrade reste l'une des dernières traces visibles de l'histoire anticoloniale de la Serbie. Mais là aussi, les nouvelles autorités tentent d'imprimer leur marque. Récemment, on a retiré la plaque à l'entrée qui expliquait que la Yougoslavie n'avait jamais participé à la traite des esclaves. En 2017, l'historienne Anna Sladojevic a travaillé sur deux expositions retraçant les liens entre la Yougoslavie et l'Afrique pour tenter de remettre en avant ces valeurs héritées de l'époque socialiste.
Dans le contexte occidental, dans les musées occidentaux, la réalité du colonialisme est laissée dans l'ombre parce que l'on fait silence sur l'anticolonialisme. Les musées occidentaux sont des institutions issues du colonialisme qui a forgé leur méthodologie et leur narration. Chez nous, la mise à l'écart de l'anticolonialisme a une autre origine. L'anticolonialisme, le non-alignement et les valeurs de la solidarité étaient très liés à l'identité yougoslave. Or, dans les années 1990, on a tenté d'effacer cette identité yougoslave, d'effacer notre identité, et cela a conduit à mettre au ban des valeurs telles que l'anticolonialisme, l'antifascisme et la solidarité.
Après l'éclatement sanglant de la Yougoslavie au début des années 90, la Serbie de Slobodan Milošević a essayé de se positionner en héritière du non-alignement tout en sombrant dans le nationalisme. Quelques liens commerciaux se sont aussi maintenus avec l'Afrique, surtout dans l'armement. Engagée aujourd'hui dans une nouvelle dérive autoritaire nationaliste, la Serbie du président Aleksandar Vučić mène une curieuse diplomatie, comme le remarque l'ancien diplomate Danilo Milic.
La politique extérieure de la Serbie d'aujourd'hui est d'abord orientation d'entrer le plus rapidement possible dans l'Union européenne. mais de garder de très bons rapports avec les pays du tiers-monde et de garder notre présence économique. Dans plusieurs pays, nous avons toujours nos entreprises, notamment au Nigeria, au Ghana, en Angola, en Kenya, en Éthiopie, en Zambie. La Serbie, étant donné que si nous voulions entrer dans l'Union européenne, nous ne pouvons pas être non-alignés, on est alignés. Mais nous sommes observateurs, nous pensons que le non-alignement a aujourd'hui toujours une importance et nous participons comme observateurs à toutes les réunions de non-alignés.
Lors de l'indépendance du Kosovo en 2008, la Serbie a tenté de ressusciter, avec un certain succès d'ailleurs, les réseaux moribonds du non-alignement pour dissuader le plus de pays possible de reconnaître le nouvel État. Une approche utilitariste, une récupération même du prestige international de la Yougoslavie, alors que la mémoire de ses valeurs est volontairement effacée des livres d'histoire.
Bonjour Vincent Teval.
Bonjour Frédéric.
Vous nous parlez aujourd'hui d'un Italien voyageur.
Et oui, Gabriele Pozzo est né en Sardaigne, voilà un peu plus de 40 ans. Mais son parcours et ses disques en témoignent. Le musicien italien n'a que faire des frontières et des genres. Et sa curiosité l'a poussé à étudier les percussions. À Rome d'abord, puis à Porto Rico et à Cuba. Des voyages qui ont nourri son inspiration au fil d'albums très différents les uns des autres. D'abord orientés vers une soul acoustique avant de lorgner vers des rythmes plus dansants où les influences et les langues se mêlent joyeusement. Son nouvel album s'intitule Batik et il est né d'une idée très simple, retrouver en studio avec son groupe, les Organic Trio, l'énergie et la spontanéité des concerts. Au menu afrobeat, disco, une pointe de jazz et une poignée d'invités comme la chanteuse Nina Rodriguez sur le titre que je vous propose, Django.
C'est sur le titre Django de Gabriele Pozzo que se termine Accent d'Europe. L'émission a été réalisée aujourd'hui par Françoise Grelot. On se retrouve dès lundi.